chaque mercredi.
Le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
Bonsoir à tous. Il était il y a quelques jours à la Philharmonie de Paris où il a emporté le public avec son Orchestre Symphonique de Londres et il entamera cet été une nouvelle résidence très attendue au Festival d'Art Lyrique d'Aix-en-Provence. Simon Rattle est notre invité exceptionnel ce soir dans le journal du classique. Il nous parlera à cette occasion de ses nouveaux projets aixois, de cette belle amitié qu'il entretient avec la France alors que son pays vient de divorcer de l'Europe. Et sur le Brexit, il a d'ailleurs son mot à dire. Alors c'est à l'occasion de son tout récent passage à Paris que j'ai pu rencontrer Simon Rattle, alors que le Festival d'art lyrique d'Aix-en-Provence venait de dévoiler sa nouvelle programmation, programmation à laquelle le chef anglais sera largement associé dans le cadre d'une résidence avec son Orchestre Symphonique de Londres. Un retour très attendu à Aix pour celui qui y a laissé tant de grands souvenirs, notamment avec le Philharmonique de Berlin dans le cadre d'une mémorable tétralogie de Wagner il y a une dizaine d'années. Et cet été, c'est Wozzeck, l'opéra de Berg, qu'il dirigera dans la fosse du Grand Théâtre de Provence, une production qui fera l'ouverture du festival le 30 juin. Berg, compositeur que Simon Rattle avait justement inscrit au programme de ses concerts parisiens, l'associant à Beethoven, soulignant ainsi l'influence beethovenienne sur l'œuvre de Berg, comme il nous le raconte justement ce soir, nous rappelant à cette occasion ses liens avec cette œuvre et avec le Festival d'Aix-en-Provence.
Oh, I think nobody escaped the influence.
Je crois que personne n'a jamais échappé aux influences. Beethoven avait l'habitude de s'inspirer de musique plus ancienne. Il l'utilisait pour construire de la musique nouvelle, exactement comme Berg l'a fait, en particulier dans Wozzeck. Personne n'entend vraiment ces formes baroques dans sa musique, toutes ces danses, ces passacailles, mais elles sont là, sans aucun doute, et font partie des fondations sur lesquelles Berg repose la construction de sa musique. Ce qui est fascinant, c'est ce texte de Wozzeck, qui semble absolument contemporain. Lire Büchner, c'est comme voir une étoile filante dans le firmament. Quand j'étudiais l'allemand et que j'ai découvert cet auteur, j'en ai été ravi car je me suis dit « Mon Dieu, il y a au moins un auteur que je peux vraiment comprendre. » Parce qu'il a un style vraiment très direct. Très contemporain. En ce qui concerne mon retour à Aix, c'est un lieu pour lequel j'ai une profonde affection pour y avoir travaillé pendant tellement d'années. J'y suis venu pour la première fois avec le Birmingham Orchestra pour y jouer Janáček. Puis il y a eu le cycle du Ring. J'ai tant de souvenirs dans cette ville. Notamment celui de la première de Siegfried, qui fut aussi la nuit de la naissance de mon deuxième fils. J'avais même demandé à être remplacé. Je leur avais dit que je ne pouvais pas laisser Magdalena seule à l'hôpital donner naissance à notre enfant, même un soir de première. Je ne pouvais pas lui dire que l'opéra était plus important qu'elle. Par chance, notre fils Milos est né à midi et j'ai pu me rendre directement de l'hôpital au théâtre. Quand je suis entré dans la fosse, j'ai vu que l'orchestre avait laissé ses deux énormes oursons couches sur l'estrade. J'étais certainement un peu ailleurs pendant la représentation car je ne me rappelle pas beaucoup, mais je me souviens très clairement des oursons couches. J'ai beaucoup de souvenirs familiaux à Aix, ce lieu extraordinaire où chaque coin de rue ressemble à un tableau de Cézanne. Même quand mon pays en faisait encore partie, nous étions très conscients que nous nous trouvions dans une partie très différente de l'Europe. Il nous suffisait d'aller au marché pour nous en rendre compte. Aix est un lieu qui offre à chacun la possibilité de réaliser un travail exceptionnel.
Petit souvenir de ce fameux ring de Simon Rattle avec l'Orchestre Philharmonique de Berlin il y a une dizaine d'années au Festival d'art lyrique d'Aix-en-Provence, avec ici les frissons du prélude de la Valkyrie. Alors c'est Wozzeck de Berg que Simon Rattle dirigera cet été à Aix, une production mise en scène par Simon McBurney, avec lequel Simon Rattle rêvait de travailler, comme il me l'a confié.
Durant pratiquement toute ma vie d'adulte, j'ai eu la chance d'aller voir les productions de l'un des génies absolus du théâtre, Simon McBurney, et son théâtre de complicité. Cette année, Pierre Audi et moi-même, nous avons réussi à le persuader de collaborer avec nous sur un nouvel opéra. Et pourtant, je peux vous dire qu'une armée romaine n'obligerait pas Simon à s'engager dans un projet. Pouvoir travailler avec cette figure extraordinaire sur cette production sera absolument passionnant. Il a des idées à la fois très puissantes, mais très simples. Il aura fallu être patient. C'est déjà ma troisième tentative de créer Wozzeck avec lui. Les deux premières ont été annulées, pas par lui, mais par deux autres festivals qui ont eu peur de l'œuvre. J'ai d'ailleurs trouvé cela très étrange, parce que Wozzeck est l'un des opéras les plus communicatifs que je connaisse. Même s'il peut aussi être l'un des plus troublants. Mais c'est un opéra qui sait aller droit au cœur des gens. J'ai avec lui une connexion familiale particulière, puisque mon très cher vieil ami, mon mentor et guide spirituel, le compositeur et chef d'orchestre Bertolt Goldschmidt, était l'assistant de Kleiber lors de la création de l'œuvre. Quelque part, j'ai grandi en l'écoutant m'expliquer à quel point cette œuvre était difficile, mais aussi à quel point elle se révélait de manière extraordinaire dès lors qu'on se lançait.
Alors cet été marquera les débuts de votre résidence avec le London Symphony Orchestra à Aix. Quel est votre projet artistique avec ces musiciens dans le cadre du festival ?
C'est merveilleux pour eux de revenir à Aix. L'orchestre jouera deux opéras, le nouvel opéra de Kaya Saariaho, qui promet d'être extraordinaire, avec un livret très puissant et cette excellente idée de permettre aux chanteurs de chanter dans leur langue à certains moments plus intimes du spectacle, même si l'œuvre dans son ensemble est en anglais. Kaya et Magdalena ont fait notamment un travail rigoureux sur la langue tchèque. Kaya veut que tout soit absolument parfait. C'est une véritable professionnelle, en plus d'être une grande compositrice. C'est un travail colossal pour cet orchestre que de pouvoir proposer ces deux œuvres. Entre les deux, d'autres concerts sont prévus, dirigés par Susanna Melki et moi-même. Mais aussi un concert à ciel ouvert, sous la forme de parade, gratuit, durant lequel nous jouerons beaucoup de Gershwin. Ce qui me fait toujours plaisir, parce que la musique de Berg et celle de Gershwin sont très liées. Quand Gershwin est revenu d'Europe dans le milieu des années 1920, la première chose qu'il a fait en descendant de son bateau a été de donner une interview au sujet du vote sec de Berg. Il était absolument interloqué d'y discerner l'influence de son Porgy & Bess que Berg avait beaucoup dirigé. Il en disait « Voilà le grand compositeur du futur ». Ce qui est étonnant, c'est que cette influence jazz de Porgy & Bess, on ne la retrouve que sur une ou deux mesures dans votre sec. Mais c'est un lien sympathique. Je vais aussi diriger un concert avec le concerto pour orchestre de Bartok et la quatrième de Mahler. Susanna dirigera La Mer de Debussy et une autre pièce de Kaya Saariaho, Lanterna Magica, que nous avions joué pour la première fois à Berlin il y a quelques années. Ce sera un emploi du temps très chargé pour tout le monde. Je pense que tout le monde est pourtant très heureux d'être de retour dans cette partie vraiment extraordinaire du monde. Ce ne sont pas exactement des vacances, mais c'est un vrai plaisir. Thank you.
quelques notes de Bruckner, le troisième mouvement de la sixième symphonie, l'un des plus récents enregistrements de Simon Rattle avec son Orchestre symphonique de Londres.
L'Or Maison sur Radio Classique.
Simon Rattle est depuis 2 ans et demi le directeur musical de l'Orchestre symphonique de Londres, un orchestre qu'il connaît, qu'il dirige depuis de longues années. Alors comment perçoit-il cet orchestre, son identité, son état d'esprit, sa sonorité? On écoute Simon Rattle.
Now this is, it's very interesting. I do seem to have gone from one very independent orchestra.
J'ai l'impression d'être passé d'un orchestre très indépendant à un autre qui l'est tout autant. C'est d'autant plus drôle de parler d'une histoire commune qu'au début du XXe siècle, le LSO et le Philharmonique de Berlin ont partagé le même directeur musical, Arthur Nikisch.
À une époque où l'English et German artistic life was
les vies artistiques anglaises et allemandes étaient encore plus proches à l'époque qu'elles ne le sont aujourd'hui. Le LSO a toujours été un orchestre très intense, athlétique et en même temps très léger sur ses pieds. Mais il a toujours eu une énergie spécifique. En tant que jeune chef, je l'ai trouvé absolument incroyable. Mais c'était difficile pour moi, car ils étaient aussi très durs. Absolument brillants, mais avec un jeu qui tenait de la philosophie de la terre brûlée, qui dégageait beaucoup d'énergie et d'intensité. Une énergie presque trop masculine. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette énergie a évolué dans les années. Aujourd'hui, c'est certainement le plus raffiné des orchestres de notre pays et sans aucun doute l'un des plus chaleureux et des plus humains. L'autre jour, à Barcelone, une vieille amie soprano avec qui j'ai beaucoup travaillé est venue nous entendre jouer la symphonie numéro 7 de Beethoven. Elle m'a dit, mon Dieu, il joue cette symphonie comme un groupe de rock. Il y a tant d'énergie, tant de groove. C'est quelque chose de très spécial. Sans être particulièrement germanique, ils ont une manière de communiquer une intensité vraiment extraordinaire, tout en gardant une grande exactitude rythmique. Surtout, ils transmettent ce sentiment qu'il n'y a rien de plus important au monde que de donner la meilleure des interprétations possibles à ce moment précis, même si l'orchestre est épuisé et a énormément travaillé. En tant que chef d'orchestre, vous savez qu'ils donneront le meilleur d'eux-mêmes le soir du concert. Je les trouve très curieux dans le sens où ils s'intéressent à tout. C'est tout aussi naturel de jouer du Rameau avec eux que de jouer de la musique qui aurait été composée hier. Il n'y a pas vraiment de limite pour ce genre d'ensemble. Thank you.
Simon Rattle et l'Orchestre symphonique de Londres dans le menuet des Feux follets de la Damnation de Faust de Berlioz. Alors s'il dirige avec bonheur la musique française, Simon Rattle cultive une longue et belle amitié avec le public français, une amitié qu'il entend bien préserver, renforcer coûte que coûte.
Au moment où notre pays traverse un climat politique de crise nerveuse intensive, c'est merveilleux que nous puissions avoir une telle relation avec la France, et pas seulement à Paris avec cette superbe philharmonie, mais aussi au Festival d'Aix avec Pierre Audi, mon excellent ami depuis 40 ans. C'est le moment de resserrer ces liens.
Justement, pensez-vous, Simon Rattle, que ces liens d'amitié avec la France pourront être resserrés avec le Brexit? Est-ce qu'il sera aussi facile pour vous de préserver ces liens avec Paris ou avec Aix?
Je pense que facile n'est pas le mot approprié, mais je suis persuadé que chacun doublera ses efforts pour garder ces liens des deux côtés. Beaucoup de mes collègues européens m'ont dit que si cela devait se produire, ils étaient prêts à en faire plus plutôt que moins. Mais la complexité se situe dans le fait de pouvoir voyager, alors que c'est déjà un cauchemar aujourd'hui. Personne ne pense à cela. Mais lorsqu'on se produit en Suisse, où il est nécessaire de produire des documents pour chaque instrument, tout doit être vérifié, et cela prend plus de 15 heures en plus. Déjà, aujourd'hui, lorsque nous y allons, nous devons utiliser d'autres instruments que ceux sur lesquels nous jouons habituellement. Si cela devait se généraliser à tous les pays, cela devient très compliqué de venir comme nous l'avons fait ici, être à Francfort le vendredi et à Paris le samedi. Cela serait impossible parce que nous arriverions ici plus tard, mais les instruments, eux, arriveraient avant nous. Personne ne sait exactement ce que cela va engager, parce qu'il n'existe pas de façon de se préparer au Brexit et qu'il n'y en a jamais eu. On ne sait pas à quoi cela va ressembler. Mais comme toujours, les musiciens feront du mieux qu'ils pourront avec la situation et nous y arriverons d'une façon ou d'une autre. L'Europe nous encourage énormément, évidemment, mais ce qui est sûr, c'est que cela ne sera pas facile.
Et qu'en est-il de cette nouvelle salle de concert à Londres, ce nouveau lieu de résidence du LSO? Êtes-vous optimiste sur ce projet?
Je préfère être optimiste. Je dirais qu'en ce moment, le projet stagne. La situation se complique. C'est inédit car nous avons tous les plans. Nous travaillons avec les meilleurs acousticiens du monde, avec cet architecte extraordinaire. Tout est prêt à démarrer. Mais nous sommes entrés dans un long cauchemar administratif. Beaucoup de choses doivent être mises en place avant que les parties prenantes puissent avancer. Nous devons être patients, mais nous, les musiciens, et particulièrement les chefs d'orchestre, nous ne le sommes pas vraiment par nature. D'un autre côté, le même genre de difficultés ont été rencontrées par la Philharmonie de Paris, qui est pourtant maintenant l'une des gloires de la musique classique. Chaque fois que l'on a l'occasion de jouer là-bas, je ne veux plus partir. Dès son ouverture, cette salle s'est classée dans les 3 meilleures salles de concert du monde. C'est un miracle. Cette vieille compétition entre les Anglais et les Français est une bonne chose. L'un de nos critiques musicaux a dit un jour « Pourquoi serions-nous obligés de prendre ce tunnel sous la Manche pour voir à quel point nos orchestres anglais sont excellents ?»
Alors nous espérons pouvoir voir la même chose à Londres.
Nous aussi.
Thank you so much.
Merci beaucoup, Simon Rattle.
Thank you.
Quelques notes de Bernstein, l'ouverture de Wonderful Town par Simon Rattle et l'Orchestre Symphonique de Londres, un chef et des musiciens à retrouver donc cet été au Festival d'Art Lyrique d'Aix-en-Provence, dans la fosse et sur scène. Rendez-vous donc entre le 30 juin et le 18 juillet. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Marine Bourcard pour sa réalisation. Demain, c'est Patricia Petitbon qui sera avec nous pour nous présenter son nouvel album. Album évoquant l'amour, la mort et la mer. Très belle soirée que je vous invite à prolonger en musique avec Francis Drezel.